explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Et des plats que l'on associe instantanément à un pays. Par exemple, si je vous dis ravioli, vous allez sûrement penser à l'Italie ou peut-être à la Chine. Mais en réalité, la géographie du ravioli est bien plus vaste. Le journaliste Emmanuel Guillemin-Deschon a décidé de l'explorer dans ses moindres recoins. Pendant plusieurs années, il a parcouru la planète à la recherche des raviolis de tous les pays, de toutes les formes et de toutes les farces. Des rinkali géorgiens aux gyozu chinois, en passant par les modak d'Inde ou les tortellini d'Italie, il a découvert l'infinie diversité des raviolis, pâtes de blé, de riz, de sarrasin ou d'igname, farci à la viande ou au fromage, à la noix de coco ou aux cerises. Il s'est invité dans les cuisines des gens qu'il croisait sur son chemin, à partager les repas de famille, recueilli les savoir-faire ancestraux, les tours de main et les secrets de fabrication. Sa quête des pâtes farcies lui a aussi ouvert une porte sur l'histoire et la culture de celles et ceux qui cuisinent et dégustent ces raviolis à travers le monde. Emmanuel Guillemin-Deschon raconte son étonnante épopée culinaire dans un ouvrage savoureux intitulé Raviolivre, le tour du monde d'un fou de ravioli, aux éditions Kéribus. Un livre à la croisée des chemins entre carnet de voyage, encyclopédie et livre de recettes. Cet après-midi, c'est avec une curiosité gourmande que nous partons avec Emmanuel Guillemin-Deschon explorer la planète des raviolis. Et nous profiterons aussi des lumières de notre sociologue de l'alimentation Éric Birloez, qui en fin d'émission nous emmènera lui sur les routes de l'orange. Voilà pour le menu du jour. Cette émission a été préparée par Emma Bouvier, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Loïs Moreau. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Le khinkali est préparé depuis très longtemps dans les régions montagneuses géorgiennes. Et il est très rapidement devenu le plat que les gens préfèrent dans tout le pays. Aujourd'hui, des personnes venues du monde entier visitent la Géorgie et peuvent goûter le véritable khinkali. D'abord, on fait la pâte. Puis on place dessus de la viande de bœuf, de porc haché, des épices et on referme la pâte. On la plonge alors dans l'eau bouillante et 7 minutes plus tard, c'est prêt. Et c'est vraiment très bon.
Bonjour Emmanuel Guillemin-Deschon.
Bonjour.
Nous commençons donc notre tour du monde par la Géorgie, car pour vous, c'est là que tout commence. Et ça commence avec un véritable coup de foudre pour un ravioli, ce ravioli géorgien que l'on nomme, alors dans le reportage on disait khinkali, mais si j'ai bien compris on prononce rinkali.
C'est rinkali.
Rinkali. Alors d'abord, avant qu'on fasse connaissance avec ce ravioli pour lequel vous avez eu un coup de foudre, décrivez-nous le lieu de la rencontre. Nous sommes donc dans les montagnes géorgiennes.
Tout à fait, alors les montagnes géorgiennes, je me souviens de cette fois, on avait fait une randonnée dans les montagnes de la Revsoureti. Donc les Revsoureti, c'est un petit coin de vallée qui est perdu à deux pas de la Tchétchénie, qui est en plein milieu du Caucase. Et donc il faut s'imaginer des montagnes qui vont jusqu'à 5000 mètres, avec des sommets enneigés bien sûr, et puis sur les versants, des alpages, des moutons, des bergers et des temples un peu magiques, un peu païens. Ça se dit chrétien, mais en fait, c'est plutôt païen. On fait des sacrifices. Et avec la viande des moutons, on va faire justement ces fameux rinkali.
Ces fameux rinkali, ce ravioli. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus que tous les autres raviolis du monde pour qu'il y ait eu ce coup de foudre ?
Eh ben, en fait, il a le bouillon. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la synthèse parfaite d'un plat. C'est-à-dire que vous avez la pâte, la viande et la soupe, tout en un.
Ouais, c'est-à-dire que le bouillon, quand vous dites qu'il a le bouillon, il a le bouillon à l'intérieur.
À l'intérieur
du ravioli.
À l'intérieur, il faut faire attention quand on le mange à pas se brûler, à pas en mettre partout. Ouais. C'est l'erreur classique. En fait, on va croquer dedans et puis le jus va s'échapper. Ouais. Mais en fait, on rajoute de l'eau dans la farce et c'est ça qui donne ce bouillon.
Ouais. Alors, vous dites que ce rinkali géorgien trône, pour vous, hein, c'est tout à fait subjectif, mais pour vous, au sommet sommet de la chaîne Ravioline. Et c'est aussi, bon, ça vous arrange parce que comme ça, vous n'avez pas à trancher ce débat entre ravioli italien ou ravioli chinois, parce que ce sont les deux mastodontes du monde du ravioli. Vous, vous avez choisi la troisième voie.
Tout à fait, c'est bien pratique. Et par contre, je pense et j'espère que ça fait très plaisir aux Géorgiens qui, dont la cuisine et la culture est souvent un peu méconnue, qui commence à être un peu plus connue à présent. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a... C'est là où je me suis dit, oui, il y a vraiment quelque chose de spécial autour des pâtes farcies.
Ça, et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, le ravioli, le plat de ravioli, ça n'est pas le plat national officiel. C'est le plat national officieux. Celui que tout le monde mange, celui que tout le monde adore, mais qui est un petit peu... dans les coulisses.
C'est ça, il va être moins dans les guides, mais par contre, quand vous débarquez, quand vous prenez le taxi, quand vous parlez avec des gens du cru, tout de suite ce qu'on va vous demander, c'est est-ce que tu as goûté les rinkali, est-ce que tu as goûté les vareniki en Ukraine. Enfin voilà, c'est vraiment le plat fétiche, le souvenir d'enfance aussi, ouais. Parce que c'est le plat des grands-mères, c'est le plat des fêtes familiales, et du coup, il a toujours une place un peu spéciale. Enfin, je sais que quand je préparais le livre et que j'en parlais aux gens, à chaque fois que j'évoquais le nom du ravioli, ça mettait des étoiles dans les yeux des gens. En fait.
Ouais. Et puis, c'est l'occasion de rencontre, parce que ça prend du temps hein, de préparer ces raviolis, ces petites pâtes farcies, une à une. Alors, par exemple, pour le rinkali, ça chante, ça boit aussi un petit peu. Il y a de l'ambiance en cuisine, oui, ça fait déjà partie un petit peu de la fête.
Oui, il y a de l'ambiance, et puis on se raconte un peu les derniers potins, les nouvelles du petit dernier, celui qui s'est marié, celle qui a trompé son mari. Enfin, voilà, toutes les histoires un peu souvent du village, parce que ça reste une nourriture un peu campagnarde. On l'a fait en ville aussi, bien sûr, mais c'est en général dans les endroits où le temps est un peu plus suspendu, où les gens ne vont pas forcément avoir un travail de 5 à 7. Mm-hmm. Ils vont avoir du temps pour cuisiner, et surtout les femmes, parce que c'est quand même avant tout un plat de femmes.
Oui, alors bon, il y a aussi quelques hommes dans le livre,
quelques hommes, oui.
Mais c'est vrai que c'est un plat de femmes, souvent aussi un plat de femmes âgées. On sent que c'est une tradition qui se perd un peu, malheureusement. Vous voudriez la remettre au goût du jour, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et avec des mouvements, des gestes particulier. Et pour le rinkali, hein, en Géorgie, il y a ce geste du crash test pour tester la qualité de son ravioli. Expliquez.
Alors ça, c'est très spécial. C'est vraiment dans une région, en Touchéti, donc les Touches. Ouais. Font ça avec mes amis, on appelait ça le test touche. Et au début, en fait, on pensait que c'était une blague, parce que les raviolis, c'est aussi les premiers raviolis que j'ai, les rinkali, pardon, c'est les premiers raviolis que j'ai cuisinés entre amis. Ouais. Et donc, on avait un ami qui était d'origine touche et qui nous avait montré ça, en fait, pour tester. Parce que comme il y a le problème de l'eau dans la farce,
oui, faut que ce soit étanche.
Il faut que ce soit étanche. Donc, ouais. Il faut pas qu'il y ait de faiblesse. Parce que parfois, même s'il n'y a pas de trou, s'il y a un peu une faiblesse dans la pâte, si la farce se laisse deviner à travers le voile de pâte, eh ben, ça peut être la catastrophe. Et le ravioli va exploser à la cuisson, il n'aura plus aucun goût puisque tout le jus sera parti dans l'eau de bouillon. Ouais.
Alors quel geste fait-on?
Et donc le geste, eh ben, c'est tout simplement de prendre le ravioli et de l'éclater par terre ou sur la table, c'est un peu plus propre. Et donc il sera tout ratatiné, mais s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas de fuite, c'est que c'est bon, ça va passer la cuisson.
Alors ils sont très beaux hein, ces raviolis, en tout cas avant le crash test, on n'est pas obligé de tous les crash tester,
voilà,
hein,
oui.
C'est un qui est sacrifié, mais les autres ne sont pas comme ça projetés au sol. C'est des sortes de petits volcans torsadés avec des petites traits rainure sur les côtés hein, qui monte un peu en torsade. C'est très beau, il y a vraiment l'art du pliage. Quel goût ça a déjà? Qu'est-ce qu'on met dedans et quelle saveur? Décrivez-nous.
Alors la saveur, la première chose qui frappe, c'est vraiment le carvi. C'est-à-dire qu'on utilise en Géorgie une variété de carvi qui est plutôt cueillie sauvage, qui est cueillie dans les montagnes. Mais en général, bon, ça va être on peut remplacer ça par du carvi. Et donc c'est une odeur un peu mentholée, un peu fraîche, mais en même temps puissante. C'est-à-dire qu'il réchauffe. Il y a aussi le piment qui est là. Et surtout, il y a vraiment le jus, le bouillon. Donc la première chose qu'on sent, c'est ça, c'est cette odeur de carvi et le jus qui vous brûle le palais.
Ouais. Avec justement, vous avait dit, la façon de déguster. Il faut pas y aller avec les couverts. Faut d'abord, ça se mange avec les mains.
Avec
c'est
les
très
mains,
gourmand.
Ouais.
D'abord, on aspire le jus et puis ensuite on déguste ce ravioli qui est donc votre préféré de tous les raviolis. Vous qui avez fait le tour du monde des raviolis et vous nous avez offert. Alors elle est bien sûr la recette dans votre livre. Vous nous l'avez offerte, donc on l'a mis sur la page du Temps d'un Bivouac et on la mettra aussi sur les réseaux du Temps d'un Bivouac pour ceux qui veulent s'y risquer. C'est quand même toujours une affaire de spécialiste. Ça ne s'improvise pas de faire un ravioli ou...
ça peut s'improviser, mais il faut savoir qu'il va y avoir la phase des essais, des erreurs et peut-être un peu parfois d'impatience ou de petits échecs. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est franchement à la portée de tout le monde. Il faut juste prendre le temps au début.
Je précise que si vous allez commencer ce tour du monde par ce coup de foudre en Géorgie, c'est que vous êtes journaliste, vous avez été correspondant, vous parlez russe couramment, vous avez été correspondant pendant 2 ans en Géorgie, également pendant 3 ans en Russie, donc c'est des régions que vous connaissez très bien. Et avant d'en faire un livre, vous vous êtes vraiment régalé de ces raviolis, vous les avez découverts comme ça. Mais comment est venue ensuite l'idée de faire ce tour du monde? Vous le dites d'ailleurs dans le sous-titre de votre livre, c'est le tour du monde d'un fou de raviolis. C'est vrai que c'est une idée un peu barrée, cette idée d'aller faire le tour du monde en quête de raviolis.
Bah, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait déjà, en voyageant, et notamment en Europe de l'Est, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui rassemblait les gens autour de ce plat, autour de la plate farcie, qui avait vraiment quelque chose de particulier. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi en faire un livre? Alors d'abord, j'ai fait des articles de journal.
Pour Libération, hein. Une série de 6 articles. Voilà. Donc, vous êtes devenu Monsieur Ravioli dans la rédac de Libé après avoir publié. Vous êtes devenu la star grâce à ces articles.
Et donc l'idée, c'était un jour, un pays, un ravioli. Et je me suis aperçu en le faisant qu'il y avait en fait énormément de choses à raconter, ne serait-ce qu'en termes de symbolique, autour de la mystique de la pâte et de la pâte farcie, du secret, du mystère caché dans la pâte. Et aussi, en termes de culture, de personnes, de pays et de ce que ça racontait des gens, en fait.
Alors, vous êtes très rationnel dans votre façon de répondre, mais quand on vous lit, quand même, on se dit cette personne est quand même un petit peu perchée, je vais dire perchée. Alors, à propos du ravioli, mystère intemporel des pâtes farcies, c'est l'attente, la surprise, le mystère d'un plat non identifié, caché dans son écrin blanchâtre, noué de poussière de froment et de quelques gouttes d'eau fraîche, et la farce littérale qui nous rappelle que le ravioli est l'une des plus belles allégories de la vie. Il recèle la possibilité de tous les goûts et de toutes les formes, comme le noyau originel du Big Bang. Il est le chaos primitif, l'œuf sacré qui porte en lui tout un univers. Il y a toujours un risque à tenter d'en briser la coquille. Non mais c'est presque mystique, votre rapport au ravioli.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle assez profondément. J'ai toujours aimé la nourriture, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous connecte à un sentiment, une idée un peu plus profonde. C'est-à-dire que la poussière qui devient le limon créateur, qui devient une forme et qui pourrait presque prendre vie, en fait, il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans et de s'imaginer, mais qui a pu inventer ça? Qui a pu avoir l'idée de prendre des graines, de les réduire en poudre et d'en faire quelque chose de presque vivant.
Et alors à cette question, justement, on va tout de suite tuer le suspense, vous n'y répondez pas franchement dans le livre.
Vraiment.
Qui a inventé le ravioli? D'où viennent les raviolis?
Alors moi, je suis un grand fan de l'explication des foyers simultanés, donc je pense que ça n'est pas une invention particulière, ça s'est fait dans plusieurs endroits. Mais bon, alors, les traces qu'on a retrouvées tendrait plutôt vers le côté de l'Asie centrale, de la Perse. Puisque le blé vient de la Mésopotamie, il n'est pas arrivé en Chine avant il y a 3000 ans à peu près. Ouais. Et donc, on a retrouvé des traces, on a retrouvé des fossiles même
des
de raviolis.
Des fossiles de raviolis. Non, mais là, c'est de l'archéologie
dans le Xinjiang,
incroyable. Ils avaient quelle forme, ces premiers raviolis primitifs?
En croissant. En croissant. Enfin, en 2001, quoi.
Éric Birlouez, notre sociologue et historien de l'alimentation préféré, habitué de nos bivouacs, qui intervient tous les jeudis en fin d'émission, est déjà avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour Daniel.
On va profiter de votre présence, puisque vous êtes là, profitons de vos lumières. Pour les raviolis, c'est pas très clair. Est-ce que pour les pâtes, donc parlons des pâtes pas encore farcies, on a une idée du moment où elles apparaissent dans nos cuisines?
Non, c'est tout aussi, je dirais la même chose qu'Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a une, de manière totalement indépendante, en tout cas dans un premier temps, eh bien on a fait des pâtes là où poussaient tout simplement des céréales. En Mésopotamie, qu'on a évoqué, au Proche-Orient, dans le Maghreb, le sud, enfin le bassin méditerranéen, et puis également à des milliers de kilomètres de là, en Chine, par exemple. Et donc, alors, du point de vue archéologique, puisqu'on parlait de ça, les plus anciennes traces à ce jour de pâtes qu'on a retrouvées retrouvés, c'est effectivement en Chine, 4000 ans, des pattes de milliers, mais on a retrouvé également, alors là, non pas des fossiles, mais la mention écrite de pattes en Mésopotamie, dans le royaume de Babylone, sur les petites tablettes d'argile en écriture cunéiforme. C'était il y a 3700 ans, d'accord. Donc vous voyez, c'est à peu près concomitant, et je pense qu'à l'époque, les gens ne se sont pas rencontrés pour se donner mutuellement la recette des raviolis.
Donc cette idée de faire une pâte, c'est aussi de conserver la nourriture, la farine, les céréales sous forme de pâte.
Et puis déjà, au départ, c'est presque évident de faire des raviolis, c'est-à-dire de prendre, comme le disait Emmanuel, d'écraser des graines de céréales, de les mélanger avec de l'eau, d'en faire de la pâte et de mettre des petits fragments de pâte dans l'eau bouillante, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Et donc, c'est pas étonnant que
l'idée soit apparue après, c'est concomitamment plus complexe. Dans différents points du globe.
Et donc, voilà.
Emmanuel Guillemin-Deschamps, avant d'entreprendre votre tour du monde du ravioli, il a fallu quand même que vous définissiez l'objet de votre quête. Et c'est là aussi une définition qui est la vôtre du ravioli. C'est quoi pour vous un ravioli ?
Oui, j'en ai pas dormi des nuits, c'était très compliqué. mais il a fallu définir des frontières qui, en matière de cuisine, comme dans le monde plus politique, sont souvent absurdes, mais ça aide quand même pour définir un objet. Et donc, j'ai choisi d'exclure tout ce qui était frit, ou cuit au four.
Donc samosa, friand, tout ça.
Alors qu'il y a une parenté évidente, mais du coup après on glissait un peu dans les beignets, les chaussons, les friands, vous l'avez dit.
Donc on a
plus que l'eau.
Ouais.
Donc cuisson à l'eau bouillie ou vapeur. Et il y a quelques petites exceptions, j'ai mis un peu des cuissons mixtes, comme pour les gyoza japonais, qui sont à la fois frits et à la fois cuits à l'eau, puisqu'en fait ils sont sur une poêle qu'on remplit d'eau à moitié cuisson.
Donc les critères, c'est pâte farcie, se tenant par elle-même, deux petites tailles, une ou deux bouchées, là aussi il y a quelques exceptions, mais globalement c'est deux petites tailles, cuites essentiellement, vous l'avez dit, à l'eau et à la vapeur. Et cette pâte et la farce doivent cuire en même temps.
C'est aussi ça peut être un assemblage.
Un aspect important de votre définition. Et mine de rien, avec cette définition, vous avez exclu en tout cas dans vos recherches, toute l'Amérique, en tout cas l'Amérique du Sud et toute l'Afrique. Pas de ravioli sur ces continents ?
Moi, je suis persuadé qu'il y en a. Juste, j'ai pas eu le temps et les moyens d'aller enquêter sur place. Parce que, par exemple, l'Afrique, c'est un continent immense, qui a une diversité culturelle incroyable, et assez peu documentée. Donc, à distance, alors j'ai interrogé à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui venait d'un pays d'Afrique, je lui demandais, mais comme j'ai trouvé des raviolis en Alsace qui se font plus que dans 5 villages, je suis sûr qu'en Afrique, il y a des poches de résistance, des gisements de raviolis à trouver.
On va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que vous avez eu des trouvailles, mais même en Italie, vous avez dégoté des raviolis absolument unique dont on ne suspectait pas, en tout cas vous ne suspectiez pas l'existence. On va avoir l'occasion d'y revenir. Et puis, si nos auditeurs ont des raviolis à vous signaler en Amérique du Sud ou en Afrique, évidemment, ils nous écrivent sur franceinter.fr ou sur les pages Instagram et Facebook.
Il y a même une page dans le livre à remplir.
Voilà, et on transmettra de notre côté. Allez, cet après-midi, nous partons pour un grand voyage à travers le monde avec les raviolis pour boussole en compagnie du journaliste Emmanuel Guillemin-Deschamps et du sociologue de l'alimentation Éric Birloise. Prochaine escale, la Chine.
Goûte-moi, écoute l'amour qui vient de moi. Et puis sur une table doux, amer, condiment spécial, un petit goût de rital. Jour après jour, l'amour devient doux, comme une pomme mûre qui t'attire et t'invite afin de l'accueillir. Mange-la avec désir. Que gusto sei, tu restes ici. Les fleurs, la tarte maison et les petits bonbons. Mais jour après jour, l'amour tombe. Mais quelque chose peut renaître des ruines du cœur. Tout ça aura peut-être une
qui pique. Mais j'ai un doute, un Italien comme moi ne comprend pas pourquoi tu aimes les pâtes trop cuites. Que gusto sei, tu restes ici.
C'était Naïf qui chantait « Goûte-moi » sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Bonjour, Madame Lee.
On dit que vos raviolis sont excellents.
Vous arrivez pile au bon moment. L'eau est déjà chaude. Elle n'attendait que vous pour bouillir. Regardez, j'utilise de la farine au gluten, c'est mon secret. Ça rend la pâte bien plus consistante, mais souple. Ensuite, je la pétris longtemps, je la travaille jusqu'à ce qu'elle obtienne l'apparence d'un gros œuf dur. Doux, lisse et translucide, c'est tout un art. Parfois, je les prends avec une soupe, ou alors hachés et cuits à la vapeur avec des zestes d'agrumes. Vous savez, dans le Nord, ils ont un dicton. Ils disent « Une bonne sieste rend content, un bon ravioli rend gourmand ». On mange des raviolis en Chine depuis plus de 14 siècles. Mais les gens du Sud ne les apprécient pas tant que ça. Pour eux, ce n'est que de la pâte farcie avec de la viande hachée. Rien de spécial, en somme.
Un extrait du film Nouvelle Cuisine de Fruit Chan, sorti en 2004. Nous voilà donc arrivés en Chine pour notre tour du monde du ravioli avec notre invité Emmanuel Guillemin-Deschon, auteur de Ravio, livre Le tour du monde d'un fou de ravioli aux éditions Keribus, avec un cahier central dans lequel justement vous nous décrivez les gestes, vous essayez de nous apprendre la précision du pliage du ravioli. C'est tout un art, hein, comme on l'entendait.
Ah oui, que je ne maîtrise pas encore du tout. C'est-à-dire que j'ai une petite expérience, on va dire, maintenant. Mais c'est vrai que je suis loin d'être une grand-mère et c'est avant tout un art de répétition, ouais, et de pratique.
Vous dites « je suis loin d'être une grand-mère ». C'est vrai qu'on en croise beaucoup, des grand-mères dans votre livre, des grand-mères dans tous les pays. Et il y a aussi, derrière tout ça, une histoire de grand-mère, la vôtre. Elle est née en Chine, oui. Votre grand-mère. Elle n'était pas chinoise, mais elle est née en Chine. Elle s'est donc imprégnée de cette culture. Elle a appris la gastronomie, la cuisine chinoise. Et vous, en tant qu'enfant, vos souvenirs, vos madeleines de Proust, eh bien, parmi ces madeleines de Proust, il y a les raviolis chinois de votre grand-mère.
Et il y a les jiaozi de ma nai-nai, comme on dit en chinois. Ouais.
Mais il faut aller aussi chercher là l'envie de ce tour du monde du ravioli. Vos premiers émois avec les raviolis, ce sont les raviolis de votre grand-mère.
Oui, sans aucun doute. C'est en fait quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure que je rencontrais d'autres grand-mères. Ouais. Et c'est surtout en fait dans le regard affectueux de ses grand-mères et les gestes, les mains un peu ridées, un peu crispé, et ce geste des ongles qui s'imprime dans la pâte, je l'ai vraiment encore en tête. Ouais. Et c'est quelque chose. La première fois que je suis allé en Chine, j'avais pas encore du tout le projet de livre, mais la première chose que je suis allé faire, c'est de retrouver sa maison d'enfance, oui, et les raviolis.
C'est ça. C'est vrai que c'est une quête très très poétique, très émouvante. Vous recherchez la maison de votre grand-mère qui a vécu en Chine. Vous la retrouvez cette maison?
Alors j'ai retrouvé la maison de vacances, la maison où elle vivait. Elle a sans doute été détruite.
Et vous cherchez aussi le goût du ravioli, c'est jiaozi de votre grand-mère. Vous l'avez retrouvé?
Eh ben, je l'ai retrouvé après pas mal de recherches, et là encore, il a fallu que j'aille à la campagne. Je suis allé au Shaanxi, qui est le pays du charbon, des mines, et qui est aussi un pays où on maîtrise l'art de la pâte. Et je me souviens de cette cantine de village, où quand on arrive, on vous sert un bol d'eau de cuisson des pâtes, puisque dans le nord de la Chine, surtout l'hiver, on vous sert un bol d'eau chaude pour ouvrir l'appétit. Et ben là, c'était un bol d'eau de cuisson des pâtes. Et il y avait vraiment le goût, la profondeur, et surtout la pâte était goûteuse aussi. Ouais.
C'est quoi le goût alors de si vous pouviez le décrire, le goût des raviolis de votre grand-mère?
C'est assez difficile à décrire. Alors comment est-ce que je pourrais le dire?
En tout cas, il y a déjà l'étincelle dans le regard. Là, vous avez le regard perdu dans le vide. Ça y est, vous replongez dans l'enfance pour aller chercher ces saveurs.
Eh ben, en fait, il y a la présence de la pâte. Quand je disais que la pâte est presque vivante, c'est-à-dire qu'elle va un peu vous résister sous la dent. Elle va pas se laisser faire. Donc il faut un peu l'amadouer avant de franchir le seuil justement de cette farce qui est un peu le mystère. Et alors là, vous avez le goût d'ail et de poireau qui ressort un peu comme ça, qui est un peu une vivacité et en même temps quelque chose qui pénètre par les narines, une odeur qui ramène en enfance et c'est vrai que tous les gens avec qui j'en ai parlé avaient ce souvenir-là, voilà du bout de pâte piqué dans la cuisine.
Alors ça, c'est un ravioli parmi tant d'autres en Chine parce que vous le dites d'ailleurs. En Chine, il y a finalement une plus grande variété de goûts et de farces et de raviolis qu'en Italie.
Oui, quasiment, et notamment au niveau des pâtes, puisque c'est en Chine que j'ai découvert. Alors, je m'y attendais pas du tout avant d'y aller. J'avais pas lu de documentation à ce sujet, ce qui est pourquoi je pense qu'il y en a forcément en Afrique et en Amérique. Ouais. Mais oui, il y avait des raviolis à base de pâte d'igname ou de manioc, des raviolis de taro.
Dont voilà. Un qui a une couleur absolument incroyable. D'ailleurs, vous l'avez dessiné,
je
vous
l'ai
avez
sur,
une
sur
chemise où il est brodé.
Voilà.
Il est violet pétant, ce ravioli.
C'est une couleur absolument incroyable et qui est due justement à cet igname pourpre qui est cultivé dans les montagnes du Fujian, donc dans le sud de la Chine. Donc je suis un peu en désaccord avec avec le son. Simplement, en fait, dans le sud, on ne les appelle pas des raviolis. En Chine, on ne pense pas les appeler comme ça, c'est un autre nom. Ouais. Ces raviolis peuvent être effectivement farcis avec des pousses de bambou, du porc, des légumes, parfois des garnitures sucrées aussi, du sésame, des cacahuètes, enfin c'est assez varié. Il y a même des pâtes qui sont translucides.
Ouais. C'est ça, hein, Éric Berlouet, c'est ce que vous nous disiez. Finalement, nous, on a cette idée de pâtes faites avec de la farine de blé, mais en fait, il y a une infinité de céréales ou même de composants qui peuvent servir à faire cette pâte.
Oui, de céréales. Donc, on a parlé du millet, on a parlé du riz, du maïs, mais on pourrait également évoquer des légumineuses. On fait des pâtes avec des pois chiches, avec, finalement, et on banane plantain, également. Donc, il y a une très, très grande variété d'ingrédients qui permettent de faire des pâtes et des raviolis.
Lentilles, haricots.
Oui, bien sûr.
On peut utiliser tout ça.
Absolument.
Et alors, vous
ce qui contient de l'amidon, finalement.
Voilà. Et même pas forcément que de l'amidon, parce que vous nous racontez même dans votre ouvrage, Emmanuel Guillemin-Deschamps, de pâtes faites avec on utilise du poisson, c'est ça, pour faire la pâte?
Du poisson ou de la viande de porc.
Ouais.
Moi, je me suis rendu dans une ville côtière, un village de pêcheurs au bout du monde, dans le sud de la Chine, où il y avait une dame qui préparait cette pâte, en fait, qui pilonnait de la viande de porc jusqu'à en faire une pâte un peu crémeuse, et dedans, elle rajoutait du manioc, du manioc en poudre, et c'est ça qui faisait c'est ça qui donnait l'amidon quand même, un peu, c'est ça qui permettait de faire l'amalgame, et c'était un processus très très long, très harassant, qui avait vraiment l'air physique, elle avait un énorme rouleau qui pesait près d'un kilo, enfin c'était...
Ah oui. Ça c'est souvent ils ont des ustensiles assez volumineux pour la pâte, on le remarquera dans la suite de cette émission. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Chine, vous y êtes retourné plusieurs fois, et notamment, vous avez choisi des moments bien particuliers. Je laisse cette ambiance s'installer dans le studio pour vous faire remonter les souvenirs. On est en plein Nouvel An chinois, et à cette occasion-là, on mange des raviolis bien particuliers.
Voilà, ce sont les jiaozi, donc, c'est les raviolis du nord de la Chine, qu'on va faire pour franchir le passage du Nouvel An. D'ailleurs, c'est pas les seuls, en Mongolie aussi, ils font des raviolis pour le Nouvel An.
Et avec des symboliques, des superstitions.
Avec des symboliques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le blanc va évoquer un peu la couleur de la purification qu'apporte la nouvelle année. Et vous avez toujours un peu des blagues qu'on va faire, puisque le ravioli reste toujours un moment assez ludique. Et on va, par exemple, en Chine, on va cacher une pièce de monnaie dans le ravioli, et celui qui le trouve, c'est un peu comme la fève.
Oui, c'est la fève.
Voilà, il va avoir fortune et prospérité pour l'année à venir.
Alors, il y a un autre ravioli associé à une fête qui vous plaît énormément. Pour le découvrir, il faut que nous mettions le cap sur l'Inde, en pleine célébration de Ganesh, une divinité hindoue.
La statue de Ganesh est toujours précédée d'une fanfare avec des percussions, avec des cuivres. Les gens dansent devant la voiture, le chariot ou le camion qui transporte la statue. Ganesh, c'est le dieu de la connaissance, c'est aussi le dieu qui lève les obstacles. Donc toute personne qui veut entreprendre quelque chose fait appel à un moment ou un autre à Ganesh. Les personnes sont venues en famille, par communauté, par quartier. Chacune ou chacun a décoré son propre Ganesh avec des couleurs plutôt vives. Là maintenant, on nous distribue des petits gâteaux, des petites sucreries indiennes. C'est très bon.
Et parmi ces friandises et ces gâteaux que l'on distribue, peut-être y a-t-il des raviolis sucrés. Il y en a un de ces raviolis sucrés. Mais vous dites, alors là encore, hein, vous ne mâchez pas vos mots, si j'ose dire, le meilleur ravioli sucré de la création. Écrivez-vous, Emmanuel Guillemin-Deschamps. Mais
c'est le ravioli de Ganesh, quand même. C'est-à-dire que c'est le
cette
ravioli d'un dieu.
Avec une trompe d'éléphant,
avec la trompe d'éléphant
qui est particulièrement gourmand, donc c'est tout à fait adapté pour parler
de... Qui adore les sucreries. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Et c'est la pièce de choix, souvent, justement, dans les petites statuettes de Ganesh. Il a aussi plusieurs bras. Et alors, il va y avoir dans un bras, souvent, un modak.
Et ce ravioli sucré.
Et c'est un ravioli sucré qui ressemble un peu étonnamment au Rinkali par l'aspect extérieur. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi un ravioli un peu pointu, un peu torsadé avec plusieurs plis, qui est beaucoup plus difficile à réaliser puisque la pâte est faite avec de la farine de riz. Donc là, il n'y a pas de gluten. Il ne faut pas se planter. Ouais. Là, la maîtrise est beaucoup plus compliquée.
Ouais. Pour le goût, alors, vous le décrivez tellement joliment. Donc, un pâte de riz fine tournée en forme de poire, hein, ce que vous venez de dire, enfermant en son sein un trésor doré de coco râpé, de sucre de palme et de fruits secs. Sous son enveloppe immaculée, cuite à la vapeur, le ravioli est juteux, gorgé de sucre et de parfums, cardamome enivrante, coco douce, poudre de pistache gourmande et cajou confite. Ça a l'air délicieux, très gourmand, presque un péché, si j'ose dire, si on n'était pas avec cette divinité pour nous donner le bon Dieu sans confession.
Mais c'est même une offrande, donc non seulement on commet pas de péché en le mangeant, mais en plus il faut le manger, parce que vous serez beaucoup plus prospère, beaucoup plus heureux, et oui, c'est quelque chose qui est, c'est un ravioli qui est aussi bon chaud que froid. Ouais. C'est-à-dire que quand il est froid, le sucre, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans la farce, c'est du sucre de palme, le jaggery, qui va avoir refroidi, et donc il va devenir un peu croquant. Il n'aura pas la même texture quand il est froid.
Allez, même si vous nous avez dit que celui-là, il était aussi compliqué, on va donner une chance à nos auditeurs de le réaliser. Vous nous avez gentiment offert la recette. C'est la deuxième. Hein. Après, on n'en met plus, on arrête de piller votre ouvrage. Deuxième recette que vous nous offrez de ces raviolis sucrés, le meilleur ravioli sucré de la création selon Emmanuel Guillemin-Deschamps, que nous allons mettre sur la page sur franceinter.fr et sur les pages Facebook du Temps d'un Bivouac. En Inde, vous avez aussi un très bon souvenir parce que, évidemment, c'est l'occasion. Vous avez passé 15 jours dans une famille, vraiment, à partager la fête, à faire les rituels avec ces odeurs enivrantes autour de vous. C'est des souvenirs merveilleux.
C'est une des plus belles rencontres, en fait, que j'ai faites pour le livre parce qu'ils m'ont vraiment adopté. Alors, ils n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi, les enfants étaient des ados à l'époque, mais c'est vrai que je me souviens quand je suis arrivé, ils venaient de recevoir la statuette de Ganesh et donc ils ont passé la matinale décorée, à mettre des guirlandes de fleurs, à décorer le dais sur lequel il était installé avec des tentures roses, couleur pastel, mais aussi vives, beaucoup de brillants. Il y avait parfois même ils rajoutaient des guirlandes de LED, ça c'est la version un peu moderne. Et quand vous arrivez à la prière, et alors vous êtes dans l'encens, dans la fumée de camphre qui brûle sur un petit tas de riz, et vous êtes vraiment plongé dans le cercle de la famille. C'est-à-dire qu'il y a une communion incroyable. Moi, je suis pas particulièrement religieux, mais là, c'était vraiment quelque chose qui était chaleureux. C'est-à-dire que je me sentais enveloppé, et finalement comme dans un cocon de pâte.
On s'en rend compte, hein, en vous lisant, en vous écoutant, ce tour du monde qui, au premier abord, avait presque, en tout cas vu de loin, un côté un peu facétieux. Voilà, tour du monde du ravioli, c'est une lubie, c'est quelque chose d'original. C'est beaucoup plus profond que ça. Hein. Finalement, c'est une formidable clé pour aller à la rencontre de l'autre. Et parfois, ça n'est pas festif. Hein. Certaines rencontres sont émouvantes, très profondes. Je pense notamment en Bosnie, où vous retournez avec une des victimes de la guerre de 1992, et sur le parcours, bah, c'est plein de réminiscences pas forcément très joyeuses qui remontent.
C'était comme un parcours mémoriel, en fait. C'est-à-dire que à chaque moment, à chaque instant, quand on est allé acheter la viande au supermarché pour les raviolis, devant après qu'on passait, voilà, il me disait ça, c'était une maison avec une famille croate, ils sont tous morts à la guerre. Ça, c'est le magasin, il est installé dans la station essence où mon père a été torturé pendant la guerre. Mmh. Il était au sous-sol, et donc quand je viens ici, souvent je croise le policier qui l'a torturé. Mmh. Et donc c'était vraiment quelque chose. J'étais plongé en arrière avec cette personne qui n'était pas vieille, mais qui n'arrivait pas à dépasser son passé. Et sa femme, c'était elle qui le transcendait, j'ai eu l'impression, avec cette maîtrise de la pâte, et qui m'a nourri comme ça pendant des jours, et qui m'a donné ce geste créateur, justement. C'est-à-dire qu'on passait de la mort, du deuil et du traumatisme indépassable à la création et à l'avenir, puisqu'il y avait les enfants aussi qui étaient avec nous.
C'est là où on se rend compte que parler cuisine, approcher l'autre avec des histoires de cuisine, de tradition, ça évite de toutes les banalités, tout de suite on est dans le cœur du sujet. On va au plus profond de ce que les gens sont, de ce que les gens ressentent.
On est en plein dans l'intimité, en fait. Demander à quelqu'un d'inconnu de venir chez vous, d'ouvrir votre frigo et d'aller dans votre cuisine, vous le ferez peut-être pas pour tout le monde. Et paradoxalement, c'est quelque chose qui désarme un peu les méfiances. C'est-à-dire que quand moi, je suis allé dans des villages où je connaissais personne, et j'allais simplement taper aux portes en demandant si les gens faisaient des raviolis. Ouais. Et c'est vrai que tout de suite, ils baissaient leur garde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous rapprochait. C'est-à-dire on avait un partage en commun de ce qu'on mettait à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant.
Avec parfois du troc, hein, c'est-à-dire que pour qu'on vous fasse des raviolis ou qu'on vous initie aux raviolis, il va falloir que vous payiez de votre personne, que vous fassiez des petits travaux pour aider à la maison. Ça, c'était ?
C'était en Autriche.
En Autriche.
Les Kingsberger.
Allez, nous poursuivons notre tour du monde du ravioli avec notre invité Emmanuel Guillemin-Deschamps, et nous allons faire une halte dans un instant dans un pays incontournable quand on parle de ravioli, l'Italie. Nous reviendrons faire aussi un petit tour en France quand même.
Efface tout.
C'était Yeli Yeli qui chantait Nuba Galactica sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Non. Dove sei? Ah, vous avez commencé déjà à faire des tortelli. Come stai? Alors, vi presento, je vous présente ma petite nonna Gina.
La farcia, papà.
Nel ripieno? Sì. C'è dentro pane, formaggio, prezzemolo, spezie e uova.
Cucina povera, c'est une cuisine qui peut être très élégante, mais en même temps, elle est issue par des produits qui, à la base, ils sont, entre guillemets, pauvres. C'est-à-dire qu'on achète du pain frais, mais on ne mange pas tous les pains qu'on a le même jour. Les jours après, il est dur, mais du coup, on le râpe et on fait de la panure pour faire les tortelli. On recycle les pains de la veille. Vous avez la simplicité, mais avec le goût. Applique-toi, nonna, hein? Dai, hein? Mi raccomando. Hein? Attention, hein? C'est ma grand-mère qui m'a mis sous les premières armes. C'est avec elle vraiment que j'ai eu cette sensibilisation pour se bien nourrir. Beaucoup de bons moments de ma vie étaient autour de cette table. Dai che andiamo a farli da mangiare, vieni, su. Piano piano, scale, attenzione. Buon appetito a tutti.
Est-il utile de vous préciser que nous sommes arrivés en Italie, dans une cuisine italienne? Notre invité Emmanuel Guillemin-Deschamps a fait un tour du monde avec pour boussole le ravioli. Et forcément, votre périple passait par l'Italie. Il y a une cinquantaine de pages dans votre ouvrage consacré à l'Italie. L'idée que l'on entendait, là, utiliser les restes pour les raviolis, un plat finalement pauvre au début, c'est toujours le cas, en tout cas pour certains?
Alors, c'est devenu un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on allait faire le rôti pour le week-end et le lendemain, on prenait les restes de viande, un peu de panure pour faire la farce des raviolis. Mais maintenant, comme alors soit c'est cuisiné dans le restaurant ou alors à la maison, mais pour des occasions, donc en général, on va acheter de la viande crue et on la cuisine ensuite.
Alors, on a dit qu'on n'était pas très sûr de l'origine du ravioli, mais par contre, le mot ravioli, étymologiquement, on est à peu près certain que ça vient d'Italie ou même pas?
Oui, mais alors par contre, vous dire exactement ce que ça veut dire, ça serait plus compliqué.
Ouais, Il y a plusieurs hypothèses.
Certains évoquent le fait que ça vienne de la rave qui aurait farci les raviolis, ça me paraît un peu douteux. Aussi du robiola, qui est un fromage mi-vache, mi-chèvre. Finalement, je pense qu'on n'a pas encore de certitude là-dessus. La science de l'alimentation est assez jeune quand même encore, relativement, et du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
Éric Birloez, on dit parfois que Marco Polo a apporté les pâtes de Chine en Italie, c'est vrai ou pas?
Et non, c'est une magnifique fake news alimentaire.
Ah oui,
on le raconte encore souvent. D'ailleurs, Marco Polo, dans le récit de voyage qu'il va dicter dans sa prison de Gênes, ben, il parle des pâtes, il en parle deux fois, mais très rapidement, et pas du tout pour dire qu'il a découvert quelque chose de fabuleux, qu'il va ramener en Italie, à Venise. Et... Non, alors, on connaît quand même un peu l'origine de cette histoire. C'est à la fin des années 1920 où on a le Macaroni Journal, qui est la gazette, on pourrait dire, de l'association américaine des fabricants industriels de pâtes, qui raconte cette histoire pour promouvoir évidemment leurs produits. Mais tout ça n'a aucune réalité. Comme on l'a vu, on fait des raviolis bien ailleurs qu'en Chine et bien avant.
Ouais. Emmanuel Guillemin-Deschamps, alors parler de ravioli en Italie, c'est un peu comme parler de fromage en France. Vous aviez que l'embarras du choix. Par quel bout vous avez décidé de le prendre et quelle région vous avez ciblé? Est-ce que vous avez aussi trouvé une sorte de point commun entre tous ces raviolis italiens?
Alors, le point commun, on va dire que la plupart se font plutôt dans le nord, mais il y en a aussi dans le sud. Mmh. Je dirais ce qu'il y a de commun, c'est un peu le son.
Ah oui.
C'est-à-dire le bruit en fait de la farine, que fait la farine sur le tablier de bois et le rouleau, le mattarello, qui est un immense rouleau qui fait plus d'un mètre de long. Et quand on utilise la semoule pour empêcher que ça adhère, c'est un grain particulier qui donne un son vraiment caractéristique.
Ouais.
Et quand vous êtes dans la cuisine et puis avec le son de cette langue si vivante, si jolie,
ouais.
ça fait un cocktail sonore qui pour moi est assez particulier.
Ouais. Et c'est finalement la pâte, tout le secret du ravioli italien, c'est la pâte. Vous osez même, ce crime de lèse-majesté, dire que pour vous, la farce des raviolis italiens est un peu sèche, un peu trop sèche?
Ça a été souvent mon expérience.
Ouais.
Alors je sais pas si c'est le cas pour tout, mais alors ils ont aussi cette tradition de les manger beaucoup en sauce ou avec assez abondamment du beurre infusé à la sauge. C'est vrai que comme la farce est cuisinée avant, contrairement à d'autres pays comme la Géorgie ou la Chine, si elle est un peu trop poussée, ça peut être un peu sec. Oui.
Alors vous avez quand même déniché.
Je veux pas me fâcher avec les Italiens.
C'est trop tard. C'est déjà fait. Ne vous excusez pas. Vous avez quand même déniché un ravioli qui ressemble un peu à un gnocchi et qui a fait un long voyage avant de retourner en Italie. Racontez-nous brièvement l'histoire de ce ravioli étonnant.
Bah, en fait, c'est ça qui m'a fasciné tout au long de mon voyage. C'est-à-dire, c'est les rencontres et les histoires de voyage, de migration, finalement. Ça, c'est un ravioli qui a un nom russe, qui s'appelle le pirovski, qui rappelle un peu les pirojki, les beignets russes, et qui a été rapporté d'Argentine par une Italienne d'origine qui est revenue émigrer dans le pays de ses ancêtres et qui a cherché ce ravioli partout, qui est en fait une sorte de pâte à gnocchi farcie avec un pesto de noisettes, et elle l'a jamais trouvé.
Ça, alors.
Il s'est perdu quelque part au-dessus de l'océan.
Bon, mais c'est ça, il y a toujours le mystère hein, avec le ravioli. Allez, on va faire un petit retour en France avant d'atterrir, parce que nous aussi, nous avons nos raviolis, et il nous arrive même de les fêter.
Aujourd'hui, pour la fête de la raviole, évidemment, on met en avant la raviole du Dauphiné. C'est un produit d'exception, très local.
La recette de la raviole est composée de fromage frais de vache, de comté, du persil revenu dans du beurre, des œufs et du sel. Nous nous approvisionnons en local, évidemment. Le fromage frais vient de Romans-sur-Isère, les œufs de Hartemonnet, un petit village. Donc c'est du circuit court, mais c'est du circuit court historique. On a toujours été circuit court depuis toujours.
C'est des ingrédients tous locaux de la Drôme. C'est ça qui fait un beau produit comme la raviole du Dauphiné.
Voilà, nous avons nous aussi nos ravioles du Dauphiné. Origine de ces ravioles
Je pense que c'est l'Italie.
Oui, même si le nid, hein, ils disent que non. Il y a cette fierté aussi.
Oui,
ils ont leur spécificité aussi, leur pâte très fine qui fait qu'on y arrive difficilement à la main finalement.
Voilà, c'est devenu... En fait, aujourd'hui, les ravioles qu'on mange sont très souvent plus fines que celles qui se faisaient avant, puisque à la main, c'est un des rares raviolis qui est plus dur à faire à la main qu'à la machine. Parce qu'il y a beaucoup de raviolis qui ne peuvent pas se faire à la machine.
Non, mais oui, c'est ça. Et vous voudriez qu'on se remette à le faire à la main. Il y a tout ce qu'il faut dans votre livre pour y arriver. Je vous donne juste ce petit message de Jérôme qui vous dit que lui, au Mexique, il a mangé ce qu'il appelle des tamales. C'est une spécialité au Mexique, Chiapas. Il s'agit de pâtes à base de farine, de maïs, farcies de légumes ou de viande, cuits à la vapeur. C'est un plat réservé pour les fêtes. Ça en fait un?
Je pense que c'est un ancêtre du ravioli, puisque c'est attesté, c'est quelque chose de très ancien. Mais comme il est obligé d'être plié dans une feuille pour le tenir, la pâte
ne se tient pas tout seul. Et voilà. Ça ne va pas avec votre définition. Et ben voilà,
désolé, Jérôme.
Merci Emmanuel Guillemin-Deschamps. Votre livre passionnant s'intitule Raviolivre, le tour du monde d'un fou de ravioli aux éditions Kéribus. Un grand merci à vous. Et on repart manger des oranges avec Éric Birlouez dans un instant. C'était Curtis Harding qui chantait There She Goes sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et merci à Djoubaka pour la programmation musicale.
Sens-moi ça, ça sent bon. Ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Et nous retrouvons donc Éric Birloez pour une nouvelle odyssée savoureuse. On quitte le ravioli, l'aliment voyageur dont nous parlons aujourd'hui avec vous, c'est l'orange.
Eh oui, l'orange qui est le troisième fruit le plus consommé dans le monde, après la banane et la pomme. D'ailleurs, c'est aussi le cas en France, ouais. Puisque en 2023, chacun d'entre nous en a mangé un peu plus de 5 kilos. Mais si on ajoute les 15 kilos, les 15 litres, ouais, consommés sous forme de jus, alors là, l'orange est vraiment numéro 1.
Et alors, où est-elle née, cette orange ?
Ben, comme tous les agrumes, en Asie, alors plus précisément en Chine, mais il faut savoir qu'en réalité, l'oranger est un hybride qui est issu de croisements spontanés entre deux espèces ancestrales d'agrumes sauvages, le pamplemoussier et le mandarinier.
Et quelles ont été les étapes du voyage de l'oranger au départ de sa Chine natale ?
Alors là, il faut faire une distinction importante, ouais, parce que les premières oranges qui sont parvenues en Europe étaient en fait des oranges amères.
Et oui.
C'était les fruits du bigaradier, qui est une espèce originaire de Malaisie, distincte de l'espèce qui donne nos oranges douces, sucrées. Et donc ces oranges amères, probablement elles ont été introduites dans le bassin méditerranéen par les Arabes. Par exemple, au XIIe siècle, on mentionne leur culture en Sicile et en Andalousie.
Mais ces oranges-là étaient trop acides et trop amères pour être mangées crues.
Oui, oui, absolument. Pour être appréciées, on devait impérativement les cuire ou les confire. À la fin du Moyen-Âge, on utilisait leur jus dans les cuisines aristocratiques quand même, arabo-andalouses, catalanes, italiennes, françaises, pour donner au mets une acidité qui était très recherchée à l'époque médiévale. Plus tard, les Anglais en feront de la marmalade. Alors, le mot vient du portugais marmelo, qui désigne le coin. Ah oui, c'est un peu curieux.
Oui.
Et puis, une dernière information, c'est que c'est avec les fleurs de ce bigaradier qu'on fabrique l'eau de fleurs d'oranger.
Et alors, du coup, quand les oranges douces ont-elles été introduites en Europe ?
Eh bien, seulement au XVIe siècle, et ce sont les navigateurs portugais qui les rapportent d'Inde et de Chine. Ces oranges sucrées, on va d'abord les cultiver autour de Lisbonne et puis très rapidement dans tout le sud de l'Europe. Alors on les nomme pommes du Portugal et d'ailleurs il est intéressant de noter qu'en grec orange se dit portocali, en turc portakal, en roumain portocal, etc. Référence au Portugal bien sûr.
Et alors et en France ?
Alors en France on les cultive d'abord en Provence à partir du XVIe siècle, mais très vite on va trouver des orangers dans les jardins des nobles un peu partout dans le royaume. On les fait pousser dans des caisses qu'on rentre pendant l'hiver, oui, dans des bâtiments vitrés chauffés parce que comme vous le savez l'arbre craint le gel. Mais avoir des orangers c'est avant tout un signe de richesse et de distinction sociale.
Oui.
À Versailles, Louis XIV fait bâtir par Mansart une orangerie voûtée de 150 mètres de long qui peut abriter en hiver plus de 900 orangers.
Et pour autant, le voyage de ces oranges douces ne se termine pas en France.
Non, par exemple, en 1873, trois orangers seulement quittent le Brésil pour la Californie et là, la production d'orangers va exploser. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont plus que le 9e producteur mondial, très loin derrière le Brésil, qui, en 2023, avait à lui seul fourni une orange sur quatre.
Et l'orange est demeuré longtemps un fruit de luxe,
oui,
Éric ?
Oui, ben, en France, par exemple, jusqu'au début du XXe siècle, on l'offrait à Noël, enveloppé d'un joli papier de soie. Et puis, les progrès de la culture, le développement des transports ont permis d'importer de très grandes quantités d'oranges en provenance d'Espagne, d'Italie, de l'Algérie française, etc.
Et l'orange n'est pas seulement un plaisir gustatif rafraîchissant, on lui a reconnu des bienfaits pour la santé.
Oui, vous savez bien qu'autrefois, les navigateurs au long cours étaient confrontés à un fléau qui dévastait les équipages, le scorbut, carence mortelle en vitamine C, qui était évidemment causée par l'absence de produits frais sur les bateaux. Et en 1747, un médecin écossais nommé James Lind va mener le premier essai clinique en conditions contrôlées, comme on dit, de toute l'histoire de la médecine. Alors il donne à 6 binômes de 2 marins atteints du scorbut des rations alimentaires différentes. Et il constate que seuls les 2 matelots dont le menu comporte des oranges et des citrons, riches en vitamine C bien sûr, guérissent du scorbut.
Merci Éric Birloez. En 20 secondes, Emmanuel Guillemin-Deschon, ça peut faire bon ménage, orange et ravioli ?
Tout à fait, oui, on peut rajouter des zestes. Ça se fait en Italie, notamment dans le sud, avec un peu de ricotta de brebis.
Et ben voilà, c'était le supplément ravioli. Merci à tous les deux. Éric Birloez, je signale que vous avez publié Le pain, une croustillante histoire aux éditions Quae. Et puis Histoire de l'alimentation des Français aux éditions Ouest France. À la semaine prochaine, Éric.
À très bientôt, Daniel.
Et à bientôt, j'espère, Emmanuel Guillemin-Deschamps.
À bientôt.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, vous connaissez le chemin, il y a nos pages Instagram et Facebook. À demain pour de nouvelles aventures.